Charles Crételo, Christophe Crételo, le père, le fils. Qui a tué ? Le père tout seul, le fils tout seul ou les deux ensemble ? C'est tout l'enjeu de cette affaire. On a tué un homme et une femme, Alain et Angela Hay. Ça se passe à Mulhouse en 1996. Ils avaient de l'argent dans une mallette, beaucoup d'argent, 500 000 francs, 75 000 euros. La mallette a disparu. Une certitude, ce sont les Crételo qui ont fait ça. Mais lequel ? Charlie ou Christophe ? Ou les deux unis par un pacte de sang ? Unis ? Pas tant que ça, car ces deux-là se détestaient.
Le Havre, mardi 2 avril 96, 5h du matin. Angela et Alain Hay, et leur caniche princesse, quittent leur domicile au volant de leur Mercedes. Ils ont 800 km à parcourir, direction Mulhouse. Ça fait 6 mois qu'ils vivent entre la Normandie et l'Alsace. À 9h, les Hay arrivent à Mulhouse où ils partagent un appartement avec un autre couple. Ils déposent leurs affaires et repartent. Ils ont rendez-vous avec le propriétaire de la pizzeria Le Moulin, à Rosenau, un village situé à 20 km de Mulhouse. Ils ont prévenu leur colocataire qu'ils seraient de retour pour dîner. Mais la nuit tombe et les Hay ne sont pas rentrés. Le lendemain, toujours pas de nouvelles. Inquiets, les colocataires téléphonent à tous leurs amis à Mulhouse. En commençant par ce restaurateur de Rosenau, un certain Charles Crételo, chez qui ils avaient rendez-vous la veille. Et celui-ci confirme, oui, Angela et Alain sont bien venus la veille, ils sont repartis en voiture vers 14h30. Il ne les a pas revus depuis. Les heures passent. Personne ne sait où sont passés Alain et Angela. Disparaître comme ça, ça n'est pas leur genre.
Alain avait l'habitude de téléphoner juste pour prendre des nouvelles, dire bonjour comme ça, parce qu'il téléphonait tout le temps, tout le temps. Et une personne qui vous téléphone pendant 3 mois, 4-5 fois par jour, et du jour au lendemain n'appelle plus, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il s'est passé quelque chose.
Le 4 avril, 2 jours après la disparition, les colocataires des Hay préviennent Céline, la fille aînée d'Alain Hay, qui habite au Havre.
Céline, vous êtes la fille d'Alain Hay et la belle-fille de sa femme Angela, qui ont donc disparu du jour au lendemain. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ils vivaient donc entre la Normandie et l'Alsace, c'est ça ?
Oui, pour le travail. Pour le travail, ils se rendaient à Mulhouse et le week-end, ils rentraient au Havre. Ils avaient décidé de ne plus retourner à Mulhouse. C'était leur dernier trajet quand ils sont partis le 2 avril 1996. Et je reçois un appel le mercredi me demandant si j'avais eu de leurs nouvelles.
Un appel de qui ?
Un appel d'un ancien ouvrier qui était parti avec eux pour travailler à Mulhouse. Donc il me dit, tu les as pas vus ? Je dis non, je ne les ai pas vus. Je vais essayer de les appeler chez eux. Donc c'est ce que j'ai fait. Sur le Havre, donc, j'appelle et je laisse des messages sur le répondeur leur demandant bah, dès qu'ils rentrent, qu'ils m'appellent, je ne comprends pas.
Ils ne rappellent pas.
Et personne ne m'a rappelé. Donc,
Le temps passant et n'ayant toujours pas de nouvelles, vous allez vous lancer dans votre propre enquête.
Oui.
Notamment, vous allez aller regarder leur compte en banque, c'est ça ?
Oui. Sur Minitel et...
Vous aviez les codes ?
Oui. On est allé voir sur leur relevé de compte parce que c'était quand même inquiétant et j'y ai quelque chose. Ça va pas. Donc c'est là que j'ai vu qu'il manquait de l'argent sur leur compte.
Combien manquait-il ?
Il manquait presque 50 millions en francs.
50 millions de francs,
oui.
Anciens ?
Oui.
Ce qui faisait 500 000 francs.
500 000 francs.
Et ça vous a tout de suite inquiété ?
Oui, beaucoup.
Ça leur ressemblait pas, ça, de retirer 500 000 francs ?
Non. Ça a été un mystère.
Pourquoi Alain et Angela se promenaient-ils avec 500 000 francs en liquide? Pour leur ami garagiste, il y a une explication.
Alain m'avait dit qu'il avait pris contact avec un particulier qui voulait lui vendre une Ferrari, et pour un montant, une Ferrari occasion, pour un montant de 500 000 francs. Et donc il fallait faire un retrait en espèces pour acheter cette voiture du côté, dans la région de Saint-Louis, du côté de Saint-Louis, mais je ne savais pas où.
Alain voulait revendre cette voiture quelques jours plus tard, en espérant faire une plus-value de 200 000 francs, 30 000 euros. Son copain garagiste n'était pas très emballé.
Je lui ai dit, Alain, tu vas te faire attirer dans un guet-apens, parce que ce n'est pas possible. Et c'est là qu'il s'est fâché, il a pris la mouche, il est monté dans sa Mercedes et il est parti. Et depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Moi, je pense à quelque chose de grave, je ne sais pas pourquoi. C'était une prémonition qui me disait qu'il s'était passé quelque chose d'anormal.
Mais que faire? Où chercher? Les amis d'Angela et d'Alain parcourent plusieurs fois le trajet entre Rosneau et Mulhouse. Ils explorent mètre par mètre les berges du Grand Canal d'Alsace. En vain.
Nous avons fait le chemin lentement et nous n'avons rien trouvé. Aucune trace de freinage, rien.
En désespoir de cause, les proches du couple Hay décident de faire appel à la presse. Ils contactent le journal local et sont reçus par le responsable de la rubrique Faits divers, Jean-Marie Storkel, un vieux de la vieille.
Ils viennent, ils m'apportent une photo du couple Hay. Ils m'expliquent que, après avoir retiré l'argent, le couple Hay est parti en voiture, dans leur Mercedes violette, à Rosenau, voir un ami restaurateur. Je leur dis, comment s'appelle ce restaurateur? Il me dit, c'est Charles Cretello.
Charles Cretello, mais le journaliste le connaît bien. En 1979, il avait couvert un fait divers sordide, un garçon de café abattu en pleine forêt pour une histoire d'argent. L'enquête avait démontré que Cretello était l'un des deux assassins. En 1980, Cretello avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, et voilà qu'un couple disparaît après avoir croisé le même Charlie.
Ça me paraît vraiment bizarre. Je me dis, Charlie, je peux pas imaginer, moi, Charlie, qui n'a rien à voir dans cette disparition.
Intimement persuadé que cette disparition est un nouveau coup de Cretello, le journaliste alerte la police judiciaire de Mulhouse.
Christian Agroum, à l'époque, vous êtes le patron de la PJ de Mulhouse. Un adulte a bien le droit de disparaître, n'est-ce pas? C'est ce que disent la plupart des policiers aux familles qui viennent se plaindre de la disparition d'adultes. Pourquoi vous intéressez à cette affaire?
Alors, on s'intéresse à cette affaire parce qu'il y a plusieurs hypothèses. La première, ça pourrait être la disparition, naturellement.
Volontaire.
Le couple volontaire, le couple pourrait très bien partir. Il a retiré de l'argent le matin même. Il a décidé d'avoir une nouvelle vie. Il part, il ne donne aucune nouvelle. L'autre hypothèse, ça pourrait être le suicide. Monsieur tue madame, puis se suicide après. Ou les deux décident de mettre fin à leur jour. Alors, pourquoi retirer 500 000 francs le matin même? Troisième hypothèse, la plus vraisemblable dans la plupart des cas, la dernière personne à les avoir vus les a tués. Et là, on a affaire à Charles Cretello, ça reste quand même une hypothèse très intéressante.
Parce qu'il a un passé.
Parce qu'il a un passé, parce qu'il a déjà tué, parce qu'il a fait 10 ans de prison. Donc c'est quelqu'un qui peut présenter le profil adéquat.
Donc vous le placez en garde à vue?
Non, pas tout de suite.
Pourquoi?
Pas tout de suite. Parce que justement, il a un profil particulier, justement parce qu'il a cette ancienneté, et justement parce que nous avons plusieurs hypothèses. Et nous n'avons pas de corps.
Donc vous n'êtes pas sûr qu'ils sont morts?
On n'est pas sûr que le couple soit mort. Pourquoi aller perdre du temps dans une enquête trop hâtive? Pourquoi aller risquer de dévoiler nos cartes, alors même que nous avons intérêt à progresser dans ce dossier?
Vous dites on a d'autres pistes, lesquelles?
Alors, l'environnement de la famille Hay, de monsieur et madame Hay, est assez particulier, assez étrange. Il y a des inimitiés entre eux, il y a des rivalités. Donc autant d'hypothèses qui nous laissent à penser que d'autres personnes que Cretello ont peut-être commis ce meurtre.
«
10 jours après la disparition jugée inquiétante du couple E, les policiers débutent une enquête classique. Et ils font, comme ils disent, dans leur langage policier, l'entourage du couple, en Alsace et en Normandie. Et ils commencent par la Normandie, le Havre, la famille, les amis. Ça ouvrira peut-être une piste.
Alain et Angela E, 46 ans. Ils se sont rencontrés sur le tard au Havre, dans un club de danse. Ils sont tous les deux divorcés avec des enfants. Ils se sont mariés en 1992.
Angela était d'abord folle amoureuse de Alain. Et c'était son mari. Il fallait le suivre et l'épauler en toutes circonstances. C'était quelqu'un de patient, parce que Alain était coléreux quand même, faut le dire.
Ses proches disent à la police que c'est dans les activités professionnelles d'Alain Hay qu'il faut chercher. À l'époque de son mariage, cet ancien docker était propriétaire d'une société de réparation de containers sur le port. Mais du jour au lendemain, les autorités portuaires avaient décidé de lui retirer le marché. Alors, il s'était retrouvé sans client.
Il l'a très mal pris. Je me souviens qu'à l'époque, il a même été hospitalisé. Et au lieu de ce que tout le monde attendait, au lieu de, j'allais dire, de passer à autre chose et puis de tenter de rebondir d'une autre manière ou de se faire réembaucher dans cette nouvelle structure, maintenant, au contraire, Alain, et c'était là tout le personnage, il a décidé de leur rentrer dedans de front.
Il avait attaqué les autorités portuaires en justice. Et il avait gagné son procès et touché une indemnité de 1 800 000 francs, 270 000 euros.
Il s'en est vanté auprès de tout le monde et il a créé des animosités autour de lui. Il a créé des animosités parce qu'il a fait, fléchir à un moment des gros intérêts locaux et on aurait très bien pu imaginer qu'il y ait eu, par ce biais, un règlement de compte.
Il y aurait eu des menaces, voilà. Ça a été aussi un axe de recherche, mais qu'on n'a pas réussi vraiment à concrétiser, quoi.
Très vite, les policiers écartent cette piste. En revanche, ce qui les intéresse, c'est l'étrange comportement d'Alain E, une fois touché l'argent du procès. Il investit dans une casse auto à Carcassonne, puis dans une brasserie au Havre, et enfin dans une entreprise de fenêtres. Et rien ne marche.
Je ne sais pas s'il avait déjà disposé de telles sommes d'argent, mais il donnait l'impression de vouloir dépenser, de vouloir flamber cet argent.
Fin 95, les Hay s'étaient installés à Mulhouse pour lancer une énième affaire. Une société d'import-export de voitures allemandes. Il s'était associé avec un certain Éric Leléter. Et une fois encore, les choses s'étaient mal passées. Angela et Alain Hay avaient dénoncé leur associé aux impôts avant de conclure un accord à l'amiable. C'était le 27 mars, 6 jours seulement avant leur disparition. Tiens, voilà une piste.
Alors, commissaire Agroum, sur ces pistes-là, vous ne pouvez pas aller bien loin.
Vous savez, le travail dans ce genre de ce genre d'homicide est un travail très minutieux, c'est un travail de fourmi. On élabore des hypothèses, on travaille sur ces hypothèses. Il y en avait d'autres. Il y avait celle de la secte, il y avait des hypothèses diverses. On a donc éliminé les hypothèses les unes après les autres.
Les comptes bougent, le téléphone portable bouge?
Les comptes ne bougent pas. Je crois qu'à l'époque, la famille Hay n'avait pas de téléphone portable, mais en tout cas, rien ne bouge. On lance un appel à témoins par la presse. On fait diffuser les images, les identités d'Alain et d'Angela en France, en Allemagne, en Suisse. On fait même diffuser le chien, en espérant que le chien princesse puisse être retrouvé, puisqu'il est tatoué. Il peut être retrouvé quelque part en France ou à l'étranger. Ça nous donnerait une indication. Rien ne vient.
Pour vous, ils sont morts ou vivants?
Très honnêtement, pour nous, dès les premiers jours, ils sont morts.
Et pendant ce temps-là, les policiers gardent un œil sur Crétello. Ce restaurateur de Rosno, repris de justice, le dernier à avoir vu le couple Hay le 2 avril.
Lorsqu'on interroge Charlie Crétello, il nous dit que le mardi, sa pizzeria est fermée et qu'il avait reçu la visite impromptue du couple Hay qui était arrivé à sa pizzeria vers midi, qu'ils avaient mangé ensemble.
Charles Cretello explique qu'il a déjeuné avec Alain et Angela, non pas au restaurant, mais dans leur appartement, juste au-dessus. Son fils Christophe a mangé avec eux, mais pas sa femme, ni la femme de Christophe, qui sont allés faire des courses. De toute façon, il s'agissait de parler affaires. Ils ont regardé la vidéo d'une brasserie du Havre, le roi de la frite que Lé voulait absolument reprendre avec lui. C'est tout. Après le repas, les ont pris leur chienne princesse et sont repartis.
Charlie Cretello nous explique que le couple et sont repartis en début d'après-midi pour rencontrer quelqu'un en Allemagne.
Un mois et demi passe et le couple et ne donne toujours pas de signe de vie. Les policiers ne manquent pas de pistes, avec une préférence pour la piste du restaurateur Cretello, qui a tout de même déjà tué une fois. Ce qui est bizarre, c'est que les ayant vus le jour de leur disparition, une heure après qu'ils soient passés à la banque, il n'est pas remarqué qu'ils avaient une mallette à la main, la valise aux billets. Mais il y a du nouveau. On vient de retrouver les corps.
Samedi 18 mai 96. Le commandant Engel est de permanence à la police judiciaire. Le téléphone sonne. C'est la brigade fluviale. On a retrouvé une Mercedes immergée dans le Grand Canal d'Alsace. C'est la Mercedes d'Alain et Angela.
Quand je suis arrivé, la voiture était en train d'être tirée hors de l'eau par une grue. Dans l'habitacle, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Les vitres étaient baissées, la clé était sur le tableau de bord au point mort, le levier de vitesse également. L'horloge de bord indiquait 2h15, ça voulait dire 2h15 ou 14h15.
À l'arrière, un sac à main, c'est celui d'Angela. Dedans, les policiers retrouvent ses papiers d'identité. Le coffre de la voiture est fermé à clé.
On ouvre le coffre et on voit que le coffre est rempli, est plein, et il y a deux corps quoi, dedans. Un corps et un autre corps en dessous, quoi, en fait. On a pensé immédiatement que c'était le couple Hay. Ils étaient complètement comprimés dans le coffre. En plus, avec le séjour dans l'eau, les corps avaient un peu gonflé. Donc on a sorti les corps difficilement et on les a placés sur le côté.
Au fond du coffre, il retrouve également le corps de princesse, le petit caniche noir d'Angela. À ce moment-là, l'affaire devient criminelle.
Pour nous, c'est un nouvel élan au niveau de l'enquête. Parce qu'on pouvait toujours imaginer qu'ils étaient séquestrés ou qu'ils étaient partis dans un autre pays. La découverte du corps nous permet de dire qu'on a affaire malheureusement à un assassinat.
Dès le lendemain, l'affaire est dans la presse.
Je me suis posé la question, avait-il été assassiné ou avait-il été jeté vivant dans le canal, dans le coffre de la voiture ? Parce que la mort par noyade, c'est une mort atroce.
Ça m'a fait froid dans le dos parce que je me dis que personne mérite de finir sa vie dans ces conditions-là. Alain, c'était pas un bandit, c'était pas un voyou. Donc je ne m'attendais pas du tout à une mort violente et dans ces circonstances. Donc effectivement, on était tous sur le choc.
Céline, quand vous apprenez qu'on a retrouvé le corps de votre papa et de sa compagne Angela dans un coffre de voiture au bord d'un canal, comment est-ce que vous réagissez ?
Je la prends en deux fois, puisque j'apprends qu'ils sont retrouvés, et ensuite j'apprends où ils étaient. Parce que pour moi, retrouver, peut-être qu'ils étaient un accident de voiture, ça aurait pu arriver. Et après, j'apprends comment que ça s'est passé, comment, en fait, c'était pas un accident de voiture.
C'est la police qui vous appelle ?
Oui, oui. Déjà, j'y crois pas. Sur le coup, Je m'effondre parce que, comme disent où ils étaient.
Pour vous, à ce moment-là, hein, qui a pu les assassiner ?
Non, je n'avais pas vraiment de...
Pas d'idée, pas de piste ?
Non.
Dominique Rizet, que donne l'autopsie des corps d'Alain et Angelae ?
Et Christophe, d'abord, cette autopsie, ça va être un travail extrêmement pénible pour les légistes. Vous l'aurez compris, les corps sont restés un mois et demi, enfermés dans le coffre d'une voiture, immergés dans un canal. Première observation des experts, c'est écrit, c'est important de l'écrire dans un rapport d'autopsie, même si on s'en doute, les corps sont en état avancé de décomposition. Deuxième observation, tous les deux, lui et sa femme, ont été tués par balle. Lui d'abord, on retrouve son corps en dessous de celui de sa femme dans le coffre de la voiture. Monsieur A a été tué de 3 balles. Une tirée dans la tempe, 2 tirées au niveau du menton. On ne peut pas déterminer la distance de tir parce qu'on n'a pas la peau, on n'a plus la peau qui permet, grâce au tatouage, de savoir à quelle distance se trouvait le canon de l'arme. Donc ça, c'est impossible. En revanche, en procédant à la découpe de la calotte crânienne, ce qui se fait dans toutes les autopsies, on trouve un cerveau liquide qui va être tamisé et on découvre 2 balles de calibre 22 long rifle.
Donc il y a une balle qui s'est perdue.
Il y a une balle qui s'est perdue. Au niveau toxicologique, aucune trace, ni de médicaments, ni de drogue dans l'estomac, dans ce qui reste de l'estomac.
En ce qui concerne Angela ?
En ce qui concerne Angela, son corps est dans le même état que celui de son mari. Elle a, elle aussi, été tuée par balle. Elle a été tuée de 3 balles, elle aussi, dont une tirée dans la tempe et une deuxième qui lui est tirée dans la nuque.
De dos, donc.
De dos. Son mari, lui, on sait qu'il était mort au moment où il a été placé dans le coffre de la Mercedes. En revanche, elle, elle était encore vivante.
Et comment on le sait ?
On le sait parce qu'elle a inhalé de l'eau du canal. On retrouve de l'eau du canal dans ses poumons et on retrouve notamment des diatomées. Les diatomées, ce sont ces petits champignons qui se trouvent dans l'eau des rivières et dans l'eau des canaux.
Le cadavre du caniche aussi a été autopsié ?
Alors, on a autopsié le caniche. Le caniche, on observe qu'il a reçu des coups très violents au niveau des côtes et du ventre. Il a également été tué par balle et il a également été tué de 3 balles. Ce qui est important, c'est qu'on sait, on établit grâce à l'expertise balistique cette fois-ci, que c'est la même arme qui a tiré et sur Monsieur A, et sur Madame A, et sur leur chien.
Chaque fois 3 fois, c'est intéressant.
Chaque fois 3 fois, donc un systématisme.
Maintenant, c'est sûr, on a affaire à un double assassinat dont le mobile paraît clair, la mallette, les 500 000 francs en liquide qui ont disparu. On a tué Alain et Angela A pour l'argent. Alors la PJ de Mulhouse va s'intéresser de plus près au restaurateur Charles Cretello.
Le lieu de la découverte du véhicule, c'est à proximité de la pizzeria de Cretello. C'est encore plus proche de l'endroit où Charlie Cretello avait commis son premier homicide.
La victime de 79 a été trouvée dans la forêt anifère. Et le couple a été retrouvé dans le canal anifère, donc à quelques centaines de mètres près.
La victime de 79 avait été abattue avec un 22 long rifle, le même calibre que pour le couple A. Et puis finalement, il y a beaucoup de contradictions dans les déclarations de Charles Cretello. Les policiers se sont procurés les relevés téléphoniques d'Alain et Angela A au Havre. Au mois de mars, les coups de fil entre le couple assassiné et la pizzeria Cretello ont été très nombreux. Notamment dans les derniers jours avant leur disparition.
La montée en puissance de ces appels téléphoniques va déjà dans un premier temps en contradiction avec les déclarations de M. Cretello qui disait ne pas avoir de contact avec le couple A depuis un certain temps.
C'était des coïncidences, des éléments qui étaient troublants, qui étaient des éléments qui permettent de dire bon, il y a quelque chose de pas normal là.
Et puis il y a quelque chose qui ne colle pas dans les déclarations de la famille Cretello. Tous sont formels. Le jour du repas avec les A, les femmes sont parties tout l'après-midi faire des courses. Christophe et Charlie sont restés seuls à la pizzeria et n'ont revu leur femme que le soir, vers 20h.
Or, des témoins, vers 17h, fin d'après-midi, des témoins aperçoivent une femme ou deux femmes avec un ou deux enfants en bas âge qui viennent à la pizzeria. Donc, comme c'était jour de fermeture, il ne pouvait s'agir que de la famille Cretello. pourquoi mentir sur une venue à la pizzeria, dans leur pizzeria? Pourquoi mentir?
Dans une affaire criminelle, à partir du moment où les gens ne disent pas la vérité, sur un point de détail, on peut penser qu'ils veulent cacher quelque chose.
Commissaire Agrum, vous décidez d'aller le voir, ce Charlie Cretello?
Oui. Et alors, la première chose qu'il va nous dire, il nous l'a dit déjà, mais il va le répéter, c'est naturellement, vous allez penser que je les ai tués, puisqu'avec le passé qui est le mien, je suis le suspect idéal.
Et qu'est-ce qu'il dit pour sa défense, enfin...
Charles Cretello, pour explication, nous dit « Je connais Alain et Angela, je les avais invités à déjeuner ce mardi-là, nous devions discuter, nous avions quelques affaires ensemble. Alain et Angela avaient l'intention d'acheter un commerce, un restaurant au Havre, et ils voulaient me montrer une cassette qui me décrivait l'établissement pour chercher des conseils et voir si on pouvait monter une affaire ensemble. »
Mais il est formel, après les avoir vus, ils sont partis vivants.
Il est formel, il a déjeuné avec eux, le couple est reparti, il n'a plus de nouvelles depuis.
Mais comment il se comporte avec vous, qui allez l'interroger à plusieurs reprises à la pizzeria?
Il se comporte de manière très relation d'ancien voyou avec un policier. C'est-à-dire, vous me comprenez, vous savez que j'ai un passé, vous savez que si vraiment j'avais fait quelque chose de mal... On s'en serait rendu compte. Vous savez que je suis repenti et que j'essaye de progresser dans la vie. Laissez-moi continuer à avancer, à aller vers le droit chemin. Voilà un petit peu le discours qu'il essaye de nous faire passer. Et naturellement, je vous aiderai à retrouver les auteurs, si tant est que je le puisse.
Donc vous le placez en garde à vue?
Non, on ne place pas en garde à vue dans l'immédiat, puisqu'en le plaçant en garde à vue, on ampute le temps dont on pourra bénéficier par la suite, lorsqu'on aura plus d'éléments pour pouvoir procéder à une audition digne de ce nom. On n'a pas grand-chose, en fait. On n'a pas beaucoup d'éléments tirés issus des auditions.
Mais un sentiment que la piste est la bonne, quand même.
Un sentiment que la piste est la bonne, bien sûr. Mais pour pouvoir le tenir, il nous fallait apporter, dans le dossier, des éléments matures.
Vous gardez donc un œil sur lui?
On va garder un œil sur lui et on va essayer de mieux le connaître pendant 18 mois, 2 ans.
Et à partir de là, les policiers placent la famille Cretello sur écoute. Ils se mettent à fouiller dans la vie de Charlie et ils tombent sur du lourd. L'homme est un pervers, manipulateur, colérique et violent.
On s'apercevait que c'était une personne capable de mentir à n'importe qui, capable de tromper même son propre fils, son épouse. On a appris rapidement qu'il avait une maîtresse confirmée. Quand je dis confirmée, c'est que ça durait dans le temps et qu'il vivait quasiment avec.
Pour draguer une serveuse d'un bar, il est capable de lui dire « Tiens, je vais peut-être... Est-ce que ça t'intéresse d'être gérante d'un bar à Marseille, par exemple, sur la corniche ?» Il lui donne l'adresse, il dit « Voilà, j'ai un bar là, ça serait intéressant si tu veux. » Alors naturellement, la serveuse, elle passait gérante d'un bar, ça l'intéresse. Donc elle fait un petit tour là-bas, elle se rend sur place, elle se rend compte que l'immeuble, il est muré. L'immeuble, c'est fini, il n'y a pas de bar, il n'y a plus rien. Quand elle revient en Alsace, elle demande à Charlie bah, « J'ai vu ton immeuble, il n'y a rien, il n'y a pas de bar. » Il lui dit, mais tu t'es trompé, alors là il est royal, là tu t'es trompé, tu t'es trompé d'adresse. C'est... Et tout ça, en fin de compte, c'était pour arriver à ses fins, c'est-à-dire pour draguer la serveuse.
Et d'après les écoutes, quand pour arriver à ses fins, mentir ne suffit pas, Charles Cretello devient menaçant.
On sentait que les gens, dès qu'il changeait d'intonation, tout de suite les gens avaient peur. Aussi bien sa femme, du côté de sa femme, sa famille, que sa maîtresse. Et même, on sentait la menace presque physique derrière qu'elle allait arriver quand il allait arriver sur place. On sentait que ça pouvait y arriver jusque-là, mais très rapidement, quoi.
Au téléphone.
Au téléphone, tout à fait.
Il faut dire que dans la famille Cretello, le père ne supporte aucune contestation, y compris de la part de Christophe, son fils aîné âgé de 25 ans, qui travaille avec lui à la pizzeria.
Le fils n'avait pas discuté les discussions du père, c'était lui le chef de famille, comme dans les bonnes traditions italiennes. Et le fils était quand même visiblement en admiration devant son père, mais c'est le père qui menait sa vie.
Charles Cretello avait certainement de l'affection pour son fils, mais ça ne se voyait pas beaucoup. S'il en avait, il la cachait bien.
Au fil des écoutes, les policiers se font une image de plus en plus précise de la personnalité de leurs clients. Exemple, le jour où Charlie Cretello a tenté de se débarrasser de sa maîtresse avec laquelle il venait pourtant d'avoir un enfant.
Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un de ses anciens cuisiniers, il lui demande de monter un stratagème avec lui et d'essayer de séduire sa maîtresse. Et lui, il arrive là par hasard et il la surprend avec son ancien cuisinier. Et alors là, il s'en va avec ses valises et dit « je m'en vais, je te laisse ». Or, le stratagème, malheureusement, n'a pas marché. Charles Cretello est un manipulateur. Puisqu'on s'aperçoit que, en compte, aussi bien sa famille, son fils, sa maîtresse, ne sont pour lui que des personnes qu'il utilise et qu'il peut jeter d'un moment ou à l'autre.
Menteur, manipulateur, autoritaire, infidèle, soit. Ça ne fait pas pour autant de lui un assassin. Les policiers persévèrent, une intuition. Leur patience va être récompensée. Un jour d'octobre 97, un an et demi après la disparition des haies.
Pendant un an, les écoutes n'ont rien donné. Et à un moment, le collègue qui était chargé de ça arrive en disant « Je crois qu'on a quelque chose ». Et on avait quelque chose ce jour-là.
Finalement, commissaire Agroum, vos écoutes téléphoniques vont finir par payer.
Oui, le travail d'environnement va finir par payer, en effet. Charles Cretello va monter une combine et va expliquer au frère de sa maîtresse qu'il peut lui faire gagner de l'argent. En effet, le frère de sa maîtresse est cuisinier, quelqu'un qui travaille, qui a de l'or entre les doigts. C'est un très bon cuisinier, il aimerait se développer, il aimerait acheter sa propre affaire. Charles Cretello va lui proposer de s'associer. Ça nous rappelle quelque chose. On avait déjà entendu parler d'association entre Alain et Charles Cretello pour acheter un restaurant du côté du Havre. Donc ça nous rappelle quelque chose. Pour pouvoir acheter cette affaire, pour pouvoir participer à cette affaire avec le frère de sa maîtresse, Charles va lui demander d'amener de l'argent. Il va lui dire « j'ai une combine, ne cherche pas à comprendre, je vais te ramener beaucoup plus que ce que tu as investi ». Je crois qu'à l'époque, il s'agissait d'investir 150 000 francs et Charles devait ramener 300 000 francs. L'affaire va durer, Charles récupère l'argent et ne rendra jamais un centime au frère de sa maîtresse. Jamais rien. Au contraire, il ne l'appellera jamais. Il fera en sorte de prétendre être dans une complexité terrible, d'être face à des individus très étranges quelque part dans le sud de la France, de courir après l'argent et d'essayer de le récupérer.
Donc ça dit quoi?
Voilà le personnage.
Ça dit que le personnage n'est pas rangé des voitures du tout.
Ça dit que le personnage n'est pas rangé des voitures, ça dit que le personnage est un menteur, ça dit que le personnage est un manipulateur. Et ça dit surtout que cette combine, cette forme de ce qu'on appelle un rip deal, de transaction pourrie, c'est exactement ce qui a pu se passer avec Alain Hay.
Le problème, c'est que c'est toujours pas une preuve, ça. Hein, c'est une indication, mais pas plus.
Bien sûr, c'est pas une preuve. C'est évident.
Pendant de longs mois, les policiers continuent d'observer les Cretello à distance. La pizzeria ferme. Christophe, le fils, part vivre à Marseille avec sa compagne. Christine, la femme de Charles Cretello, part habiter dans le sud, elle aussi, à Riance. Et Charles mène une double vie entre sa femme, Ariance, et sa maîtresse, en Alsace. Il serait peut-être temps de le cuisiner, ce Charlie Cretello, 2 ans après le double meurtre.
Le 9 juin 1998, les policiers arrêtent Charles Cretello alors qu'il sort de chez sa maîtresse.
Quand on l'interpelle, il est pratiquement le même que lorsqu'on allait manger dans le restaurant. Quoi. Il paraît sûr de lui, il est normal. On se dit que ça va être difficile à ce moment-là.
Le même jour, un autre policier va chercher Christine, la femme de Charlie, à Riance. Le commandant Engel, lui, arrête Christophe et sa compagne à Marseille. La mère, le fils et la belle-fille sont interrogés à la PJ de Marseille. Charlie, lui, est en garde à vue à la PJ de Mulhouse.
On avait peur que si jamais les gardes à vue se prennent dans un même lieu, que Cretello réussisse, parce qu'il connaissait le milieu, à communiquer par un moyen ou par l'autre, ou rencontrer donc un des membres de sa famille, et de par là fasse pression pour les obliger à ne rien dire.
En garde à vue, tous répètent la version donnée en 96. Les haies sont arrivées vers midi. Les compagnes de Charlie et Christophe sont parties avec les enfants faire des courses. Seuls Christophe et Charlie ont déjeuné avec le couple haies. Alain et Angela sont repartis vers 14h30. L'après-midi, Charlie et Christophe ont travaillé dans la pizzeria. Ils n'ont revu leur femme que vers 20h. Le lendemain matin, à la PJ de Marseille, le lieutenant Poirier met la pression sur Christine. Il lui parle des frasques de son compagnon, de sa maîtresse, du fils qu'il a eu avec elle et qui a le même âge que sa petite dernière. Il lui fait même écouter des conversations téléphoniques de Charlie, sans résultat. Mais quand il lui révèle que des témoins l'ont aperçu vers 17h sur le parking de la pizzeria, le jour même de la disparition des haies, il sent que Christine va craquer.
Christine m'a regardé. Pendant un certain temps, ça a été assez long. Bon, enfin, tant que ça passe peut-être vite, mais c'était long. Elle a pris une cigarette, m'a fait des yeux ronds. Et là, elle m'a avoué, elle m'a dit « Oui, effectivement, on est revenu à la pizzeria. »
Christine avoue. Oui, elle a menti. Ce jour-là, elle est bien revenue, à 17h, à la pizzeria. Mais elle n'a pas pu entrer.
Quand je suis arrivée, je voulais descendre de voiture pour rentrer. Et mon fils, il vient. Et puis là, quand j'ai vu le visage de mon fils, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez mon fils. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as, Christophe ? Rien, rien, maman, rien, rien, rien. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que... Maman, tu ne peux pas monter. J'ai dit, pardon ?
Charlie s'approche à son tour de la voiture de sa femme.
Et lui, il vient et dit, tu ne peux pas monter maintenant parce qu'on a des affaires à faire. On a des discussions, tout ça, tu n'as pas à être là-haut. Je dis, mais ça ne va pas, je suis chez moi, là. Et j'ai rien compris, là. Pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi ? Tu rentreras tout à l'heure. Et je suis partie avec mon ex-belle-fille, c'est dans son appartement.
Tout de suite, je lui ai demandé, mais la voiture, elle était où, la voiture des... Elle était le long de la terrasse, garée vers à gauche.
Charles et Christophe Cretello ont donc menti. Les haies ne sont pas reparties à 14h30, comme ils l'affirment aux policiers, depuis maintenant 2 ans.
Était soit encore vivant dans la pizzeria ou mort, puisque leur voiture était là, et puis interdiction de rentrer dans la pizzeria. Donc il y a bien quelque chose qui se passait dans cette pizzeria. Donc naturellement, pour nous, c'était un élément encore beaucoup plus important. Quoi. Enfin, disons que c'était le début des aveux. Quoi, hein.
À Marseille, le commandant Engel soumet alors les déclarations de sa mère au fils Christophe, qui à son tour change de version. Il raconte maintenant qu'il était parti promener les chiens quand, à son retour, il a découvert les corps du couple haies.
Nous, on pensait que c'était plausible, quoi, c'était possible. Et à un moment, on dit, bon, écoute, on va marquer tout ça, on va noter sur le PV. À un moment donné, il est devenu tout blanc. Il dit, attendez, il a commencé à pleurer. Et il dit, non, écoutez, il faut que je dise, c'est pas passé comme ça. En fait, c'est moi qui ai tué Madame May.
Et Christophe vide son sac. À la fin du repas, Alain Hay se serait assoupi sur le canapé. C'est alors que son père Charlie lui aurait discrètement tendu une arme et lui aurait dit « Liquide Angela ». Christophe aurait alors invité Angela à visiter la cave du restaurant. Et quand Angela a ouvert la porte de la cave, Christophe, dit-il, aurait tiré 2 ou 3 fois dans le haut du dos ou dans le cou. Ensuite, il raconte qu'il a rendu l'arme à son père, qui aurait ensuite tiré sur Alain et, toujours endormi, sur le canapé.
On était un peu estomaqués, quoi. On ne pensait pas qu'il était capable de faire ça, quoi, qu'il aurait pu faire ça. Tel qu'il a décrit la scène, tout ce qu'il a décrit, c'est cohérent. Avec les constatations, c'est l'orifice d'entrée des balles, etc. Donc ça tenait debout, quoi.
Et Christophe continue. Après le meurtre, père et fils ont traîné les corps dans la cave. Puis ils ont nettoyé les traces de sang dans l'appartement et dans la cuisine. Ensuite, Charlie a pris sa voiture et est allé récupérer sa femme chez sa belle-fille, la femme de Christophe. Christine est revenue à la pizzeria. Il était environ 20 heures.
Et quand je suis rentrée dans cet appartement, Charles Cretello, il a dit, je dois partir avec Christophe. Je dois faire quelque chose avec Christophe. Et il m'a enfermée. Moi, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il m'a enfermée là-dedans? Et puis alors, j'arrivais pas à dormir. Et comme il fait sombre, parce qu'on était quand même dans un endroit isolé, je veux dire, c'est pas... Il y avait des va-et-vient avec sa camionnette qu'il avait.
Christophe raconte que lui et son père ont mis les corps dans le coffre de la voiture des Hayes. Ensuite, ils sont partis à deux voitures. Devant Charles Cretello, au volant de la Mercedes. Derrière Christophe, au volant de sa camionnette. Arrivés sur les berges du Grand Canal, ils ont poussé la Mercedes dans l'eau.
Alors là, commissaire Agroum, Christophe Cretello vient d'avouer, Christine vient de balancer, et il se trouve que tout ça se passe à Marseille, vous, vous êtes à Mulhouse, Charles Cretello est dans un bureau de la police judiciaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui balancez tout le PV des aveux de son fils et des révélations de sa femme?
Non, bien sûr, on ne lui balance pas tout le PV des aveux ni de son fils, ni des déclarations de sa femme. Ce n'est pas dans les méthodes de la police judiciaire. La police judiciaire, c'est une méthode qui nous entraîne à pouvoir procéder à des auditions de manière circonstanciée. Donc je vais dans un premier temps lui dire que son fils a avoué et lire le tout début « Je reconnais ma participation au meurtre d'Alain et Angela Hayes ». Voilà.
Et là, comment il réagit?
Là, on sent que Charles est saisi, on sent qu'on a marqué juste. On sent qu'on ne s'est pas trompé, on comprend là vraiment qu'il va se passer quelque chose. Donc il va nous expliquer, il va nous donner sa version. Et dans sa version, dans sa première version, Charles prend tout à lui. Il se comporte comme un père de famille, comme un père du Sud, comme quelqu'un de responsable. Il écarte toute responsabilité de son fils.
Mon fils
a inventé ça, c'est moi qui ai tout fait. Si mon fils l'a dit, c'est pour me couvrir. Mais non, mon fils n'y est pour rien.
Et vous le croyez à moitié?
On ne le croit pas du tout. On ne le croit pas du tout. Ça paraît relativement incohérent. Pourquoi est-ce que Christophe Cretello irait avec force détail, avec des détails qui correspondent à ce que l'on connaît, c'est-à-dire avec des détails qui sont corroborés par les constatations qu'on a pu faire sur les corps, par les examens médico-légaux? Comment est-ce que Christophe pourrait connaître aussi bien ces détails-là s'il n'avait pas participé à l'homicide?
Le mobile, qu'est-ce qu'il vous dit sur le mobile? Pourquoi a-t-il tué ces gens-là?
Le mobile, il va nous dire qu'en fait, il les a tués parce qu'il les méprise. Il a trouvé que Alain Hayes avait trop de morgue, trop d'aisance, et il les a énervés. Donc, il va les tuer pour ça. C'est un mobile un peu facile. C'est vrai que Alain Hayes nous a été décrit comme quelqu'un qui a une personnalité forte, qui parle beaucoup, qui s'impose. De là à le tuer. Non, on n'y croit pas du tout. Il les a tués tout simplement parce que c'était le seul moyen de pouvoir récupérer ces 500 000 francs.
Généralement, quand un gardé à vue passe aux aveux, c'est la fête chez les policiers. Là, pas du tout, car ils sont face à un casse-tête. Ils ont deux aveux différents. Le fils dit avoir tué Angela, son père tuant ensuite Alain. Le père dit qu'il les a tués tous les deux. Pour tenter d'y voir plus clair, ils vont donc fouiller du côté des histoires de famille des Cretello.
Au moment de son arrestation, Charles Cretello a 46 ans. Il est né à Marseille, où sa mère l'a élevé quasiment seule. Son père, souvent absent, travaillait dans la marine marchande. Il a une sœur cadette, Marie-Josée, 2 ans de moins que lui. Charlie a 6 ans quand ses parents se séparent. Sa mère se remarie. Il a 19 ans. Quand il rencontre Christine, il l'épouse quelques mois plus tard, et très vite naît Christophe. À partir de là, la vie conjugale devient un enfer.
Les coups. Les menaces, si je donnais pas ce que lui voulait, ben c'était les coups. J'ai essayé de partir plusieurs fois, mais une fois, il m'a tout cassé dans la maison.
En 1980, Charles Crétello est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un garçon de café. Christine divorce et reste seule avec son petit garçon de 7 ans. Christophe est élevé en partie par ses grands-parents paternels, aux côtés de sa cousine Laurence. En 1989, 9 ans après sa condamnation, Charles Crétello sort de prison. Christophe a alors 18 ans.
Christophe était content de voir son père dehors. Moi, j'étais contente d'avoir un parrain. Et je crois que Christophe et moi, on l'a trop idéalisé. On s'est dit, c'est un caïd, c'est quelqu'un de fort, quelqu'un qui a souffert, qui est contre la justice, c'est un rebelle.
C'était un père fantasmé, un père mythique. J'ai parlé d'un père mythique, puisque dans la réalité, une fois qu'il a rencontré le père dans la réalité, c'était pas du tout le personnage qu'il avait imaginé.
Christine accepte de reprendre la vie conjugale avec Charles Crétello. Ils ouvrent un restaurant à Marseille, puis un autre à Aubagne. Laurence, la nièce, les rejoint et devient serveuse. Les violences et les insultes reprennent de plus belle.
On était des bons à rien, des incapables. Un jour, il a frappé Christophe. Et quand il le frappait, il disait à Christophe, « Rends-moi les coups. » Christophe n'a pas osé lever la main sur son père. Et il lui a dit, « T'es pas un homme. » Un jour, au restaurant, Charles Crétello, il a frappé Christophe. Puis, il lui a pris la main. Il lui a posé la main sur le plan de travail de la cuisine. Et il a pris... genre de hachoir. Et il a tapé avec le hachoir à 2 mm de la main. Et j'étais à côté et je pensais vraiment qu'il allait lui couper la main. Christophe, il était blanc, plus que blanc. Mais on n'a pas bougé. Personne n'a bougé.
Pourtant, en 1995, quand ses parents décident de retourner en Alsace pour ouvrir la pizzeria de Rosenau, Christophe les accompagne.
Je pense que le fils était inféodé au père, assez obéissant, quelqu'un d'anxieux, jeune, une personnalité pas encore très affirmée, à côté d'un père un peu machiavélique, je dirais même. Il voulait peut-être exister lui aussi aux yeux du père.
Marie-Josée Crétello, vous êtes la sœur de Charles Crétello. Avec vous, il faut que j'éclaircisse deux ou trois choses.
Oui.
Sa femme dit que votre frère était violent avec elle et violent avec son fils.
Non. Je m'insurge complètement là-dessus parce que ça a complètement un non-sens. Du fait que ma belle-sœur, 25 ans après, a eu un autre enfant.
Avec Charles.
Avec Charles. Et elle m'a dit, ton frère me laisse le choix. Et mon choix, c'est de le garder parce que je suis heureuse d'avoir un autre enfant avec ton frère.
Ce qui, pour vous, est la preuve qu'il s'aimait.
Qu'il s'aimait, c'est la meilleure preuve. 25 ans après, vouloir garder à 43 ans un autre enfant de cet homme qui est soi-disant violent.
Vous n'avez jamais été témoin de violence de votre frère à l'égard de qui que ce soit dans la famille?
Non, non. Il pouvait être autoritaire. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il a toujours protégé. De tout petit, mon père était navigateur. Donc il partait 6 mois, 9 mois. Hein, quand il revenait, bon, maman s'appuyait sur mon frère. Il était très éveillé et elle appelait mon petit homme. Et c'est lui qui s'occupait de moi.
Donc il avait de l'autorité.
Il avait de l'autorité et puis maman lui avait inculqué ça.
Mais il n'était pas violent.
Bon, je pense que la seule violence qu'il a eue, et là je suis sincère, j'en ai aussi discuté avec mon frère et ma fille, c'est la fois où mon neveu, bon ben, comme tous les jeunes, avait pris la voiture de mon frère sans l'avertir. Mmh. Il avait eu un accident, il était sous l'emprise de la boisson et il a causé un accident et délit de fuite. Voilà. Et c'est la seule fois où il a levé la main sur lui.
Le problème, c'est que votre propre fille, Laurence, qu'on a rencontrée, dit qu'elle a été témoin de violence de votre frère à l'égard de son fils Christophe.
Ça me fait mal au cœur parce que vous savez, en plus c'est son parrain. pour mettre mon frère parrain de ma fille, enfin quand même, j'ai été élevée avec lui, je ne sais pas, s'il y avait eu de sacrés problèmes, jamais j'aurais fait ça. Parce que je savais qu'elle serait toujours protégée. Hein. Et une fois, elle est rentrée très 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 tard, et mon frère m'a dit, c'est vrai, j'étais tellement en colère qu'elle a eu une gifle. Elle est rentrée à je ne sais pas quelle heure du matin, je me suis fait un mauvais sang d'encre, elle m'a répondu, je lui ai donné une gifle. Voilà.
Mais ça n'est pas allé au-delà.
Non.
Si on se résume, selon vous, votre frère était une sorte de patriarche dans la famille, un peu dur, mais pas violent.
Dur, mais pas violent.
Après leurs aveux respectifs et contradictoires, les Crétello, père et fils, sont déférés l'un après l'autre devant le juge d'instruction. Qui a tué ? Le père, le fils ou les deux ? Et les femmes étaient-elles au courant ? Et que sont devenus les 500 000 francs, les 75 000 euros du couple A ? Le juge n'est pas au bout de ses peines.
Dans le bureau du juge, Charles Crétello reconnaît avoir dépensé l'argent, notamment pour payer ses employés. Ce que confirme l'enquête.
Il paye deux de ses serveuses, un autre homme à tout faire. Il le paye avec des billets de 500 francs. À chaque fois, c'est des billets de 500 francs qui ont l'air neufs. Or, dans la caisse, il n'y a pas de billets de 500 francs qui rentrent comme ça, puisqu'il y a très peu de recettes. Il vit la nuit. Il vit financièrement, il vit bien. Avec sa maîtresse, pareil, il vit très bien. Donc, il lui faut de l'argent, il fallait qu'il y ait de l'argent.
Christophe, lui, dit avoir personnellement utilisé 50 000 francs, 7 500 euros. Quant à Christine, elle dit n'avoir profité de rien. Mais elle connaissait l'existence de cet argent, dit-elle au juge. Et ça lui avait mis la puce à l'oreille.
Il avait des liasses de 500 francs, des billets de 500 francs. Plein de... Et il touchait cet argent comme ça. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, ces gens, ils ont disparu. Et ces gens, ils avaient de l'argent. Et puis il m'a attrapé comme ça. Il m'a collé contre le mur, il me serrait, il m'a dit, si tu ouvres la bouche une seule fois, c'est fini pour toi. Une seule fois.
Pour le juge, la question est maintenant de déterminer qui dit la vérité sur le meurtre d'Angela. Christophe ou Charles ? Qui a tué Angela ? Le fils ou le père ? Le 16 mars 2000, le juge organise une reconstitution à la pizzeria. Sont présents le lieutenant Gilles Poirier et les avocats des victimes, maître Alain Michel et Laetitia Bénard. C'est la première fois qu'il rencontre Charles Crétello.
C'est quelqu'un qui dégageait une force terrible. Et j'imagine très bien qu'à l'arrêt, et rapidement fait confiance à Charles Crétello, parce que c'était le genre d'homme qui lui plaisait. Le fils était un zombie. On le sentait penaud, on le sentait pas à l'aise.
La reconstitution commence par la version de Christophe, selon laquelle c'est son père qui le prend à part et lui tend une arme. Christophe descend l'escalier qui mène à la cuisine du restaurant, derrière Angela. Celle-ci ouvre la porte de la cave et Christophe tire trois coups.
Il refait les gestes assez naturellement. Sans particulièrement hésiter.
C'était complètement crédible. Il s'est pas trompé et il nous a montré exactement ce qu'il avait fait. On n'avait aucune raison de douter de cette version.
Christophe remonte à l'appartement et rend l'arme à son père, qui, dit-il, empoigne Alain et endormi sur le canapé.
C'est impressionnant de vérité. On croirait que ça se fait en direct. Il pointe, il tire. On pourrait penser qu'il est en train de le faire, réellement. C'est d'une violence.
La version du père, maintenant. Aucun doute, il a bien tué Alain Hay. Mais juste avant, a-t-il également tué, comme il l'affirme, Angela?
Quand le magistrat demande par la suite au père Cretello de refaire les faits et gestes quand il tue Madame Hay, là, ça manque de précision. On voit qu'il est un peu emprunté. Il n'a pas l'air d'avoir... Enfin, c'est emprunté. C'est pas aussi réel que quand il tue Monsieur Hay.
Charles Cretello affirme avoir traîné les corps dans la cave, puis les avoir entassés dans le coffre de la Mercedes, tout seul. Et ça, ça ne tient pas.
Pour manipuler des corps, notamment le corps très lourd de Monsieur Hay, c'est plus facile à deux que tout seul. En particulier pour les descendre des escaliers ou remonter l'escalier de la cave et de les entasser dans le coffre d'une voiture pour que ça y tienne place.
Les constatations faites par les experts et puis par à l'époque par les policiers contredisent la version de Charlie et confirment la version de Christophe.
À l'issue de cette reconstitution, le juge retient la version du fils. Mais alors pourquoi Charles Cretello s'accuse-t-il de tout? Pourquoi couvrir son fils?
Moi, il me semblait qu'il voulait endosser les deux assassinats pour que le fils soit un peu mis hors de cause et qu'il ne parle pas. Et pouvoir peut-être manigancer sa version, sa propre version. C'était aussi une manière de ne pas le considérer comme un sujet à part entière dans cette affaire.
C'est-à-dire
de le rayer un peu symboliquement de ce passage à l'acte et de se dire j'endosse, moi, les deux assassinats.
Commissaire Agroum, à l'issue de la reconstitution, franchement, c'est la version de Christophe qui est la plus cohérente.
Tout à fait cohérent.
Ça colle avec les constatations.
Ça colle avec les constatations et ça colle surtout avec la version de Christophe qui ne peut pas être inventé, qui ne peut pas être inventé. Lorsque Christophe a été entendu, il a vraiment donné le sentiment de se débarrasser d'un grand poids.
De se vider.
Et ensuite, on s'en rendra compte qu'il a eu une démarche très particulière. Il s'est mis à boire après la disparition du couple Hay. Il s'est mis à être différent de ce qu'il avait été jusqu'à présent. On comprend a posteriori, on comprend aussi par l'audition de sa femme, par l'audition de ses proches, qu'il a supporté quelque chose d'énorme pendant toute cette période-là. Et l'audition va lui permettre de se libérer. Ah, pourquoi irait-il se libérer en inventant une histoire? Non, il se libère en disant la vérité.
Mais alors pourquoi est-ce que le père veut endosser ces deux crimes?
Je pense, moi, au tout début, qu'il a voulu le faire pour jouer les grands seigneurs. Parce qu'il est grand seigneur. C'est un gars du Sud, c'est un voyou, son fils a fait une connerie. Il va le défendre. Et il va défendre cette position-là longtemps.
À l'issue de la reconstitution, est-ce qu'on peut dire avec certitude qu'ils ont prémédité leurs gestes?
Alors, je reste persuadé que Charles Cretello a prémédité le tout. Je ne suis pas convaincu que Christophe Cretello ait prémédité quoi que ce soit. Je suis même convaincu que Christophe Cretello s'est retrouvé au pied de l'échelle, au pied du mur, lorsque son père lui a donné l'arme et lui a demandé de tuer Angela.
Ça y est, on est au bout de l'enquête. Le juge est sur le point de boucler son instruction. Et là, coup de théâtre, Charles Cretello veut revenir sur ses aveux.
À ce moment-là, Charles Cretello est incarcéré à la maison d'arrêt de Mulhouse. Au parloir, quasiment personne ne vient le voir. Personne, sauf une visiteuse de prison qui s'est prise d'affection pour lui.
J'allais le voir toutes les semaines. Et très vite, il m'a déclaré un jour, je souhaite vous dire la vérité, ce n'est pas moi qui ai tué, je me suis accusée à la place de mon fils. Je l'ai cru immédiatement, je ne pourrais pas dire de façon précise pourquoi. Fallait-il vraiment passer toute sa vie en prison ? Pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'était quand même un peu dommage.
Ariane Rubel demande à l'un de ses amis, Maître Corman, avocat à Paris, de se pencher sur le dossier. Et très vite, l'avocat met en doute le scénario raconté par Christophe.
Comment il se fait que il s'y soit pris à deux personnes pour assassiner deux personnes avec une seule arme? Comment imaginer que, alors qu'il s'agit d'assassiner deux personnes, on va commencer par assassiner la personne la plus faible et en outre lui donner à la deuxième victime potentielle le temps de prendre je ne sais quelle disposition, mais en tout cas de s'éloigner ou d'agresser l'autre, puisqu'il est supposé être non armé, n'est-ce pas? Donc il y a là plusieurs incohérences qui sont quand même extrêmement frappantes.
Il est vrai qu'on peut s'interroger. Pourquoi Alain Hay ne s'est-il pas réveillé quand on a assassiné sa femme de trois coups de revolver? Certes, deux étages en dessous.
Une balle de 22 long rifle, ça fait pas trop de bruit. Hein, contrairement à un calibre plus important du 9 mm, par exemple, hein, ça fait pas beaucoup de bruit.
Il y a une part d'improvisation là-dedans, quoi. Apparemment, Christophe, il dit, mais on n'en a pas parlé avant. On n'a pas... C'était, voilà, à l'instant présent, à l'instant, au moment.
L'avocat parisien Charles Corman s'est forgé une conviction. On charge Crétello à cause de son passé et de sa personnalité.
Toutes ces évocations de son caractère manipulateur, soi-disant, son côté narcissique, tout ça sert à combler un vide. On peut dire que peut-être c'est un charmeur, peut-être que c'est un manipulateur, peut-être qu'il a un ego surdéveloppé, mais je ne comprends pas en quoi ces éléments-là permettent d'en déduire sa culpabilité.
Entre-temps, en prison, Charles Crétello redore son blason.
Assez peu de temps après, j'ai appris qu'il avait sauvé la vie d'un surveillant qui avait été attaqué par un autre détenu.
Et je me dis, et c'est une question alors à ce niveau-là d'intuition et de conviction, que cet homme-là qui a agi ainsi ne peut pas être celui que l'on accuse.
Reste à convaincre l'intéressé de se rétracter officiellement devant le juge. Et vite.
Il a fallu que nous discutions, mais vraiment pendant des mois, pour que enfin il se laisse convaincre. Et à partir de là, eh bien, il a changé d'avocat. Et tout s'est mis en branle.
Le 24 octobre 2000, dans le bureau du juge, Charles Crétello se rétracte et donne une toute autre version des faits. Ce 2 avril 1996, il a bien déjeuné avec le couple Hay et avec son fils. Ensemble, ils ont visionné une cassette de ce restaurant, le Roi de la Frite, qu'ils avaient en projet de reprendre ensemble. Mais dit-il, ce dossier ne le passionnait pas. Alors, vers 14h30, il est allé promener les chiens. Il n'est rentré que vers 16h, 16h30. Dans le restaurant, il a vu du sang dans les escaliers. Son fils lui a dit « J'ai fait une connerie ». Alors il a tout de suite compris. Écœuré, il dit à Christophe de se débrouiller seul avec les corps. Ce n'est que le soir, une fois Christine bouclée dans sa chambre, qu'il s'est résolu à aider son fils à faire disparaître les corps. Mais en chemin, les deux se seraient disputés et Christophe serait allé seul sur le bord du canal. Quant à l'argent, oui, il l'a caché, mais il n'y a pas touché. C'est Christophe, dit-il, qui l'a dépensé.
On avait quand même une idée de Charlie. Bon, là, c'est vrai que ça dépassait l'entendement, c'est tout mettre sur le dos de son fils. Ça, c'est quand même fort. Mais autrement, on était d'un côté étonné de ce revirement, et d'un autre côté, ça collait au personnage.
Tout cela a pour effet de retarder considérablement la procédure. Mais ça n'empêche pas que 7 ans après la mort du couple Hay, le juge Bourguignon renvoie le père et le fils devant la cour d'assises. L'un et l'autre pour un double meurtre. Le juge n'a pas tranché. Ce sera à la cour d'assises de tenter de faire jaillir la vérité.
Le procès a lieu à Colmar. Entre le père et le fils, dès le premier jour, le malaise est palpable. Même si Christophe, sous anxiolytique, semble ailleurs.
On a Christophe Cretello qui est très éteint. Et au contraire, Charles Cretello qui, lui, est très déterminé, très à l'aise, qui ne laisse pas passer la moindre émotion à l'égard de son fils qui est assis à côté de lui dans le box des accusés.
Christophe est plus grand que lui. Alors que, et en même temps, on a l'impression que Christophe est écrasé par lui.
C'est quand même frappant, ce père et ce fils qui ne se regardent jamais, qui ne s'adressent pas la parole. Il y avait un mur, quoi. Il y avait un mur entre eux.
Maître Corman veut démontrer que Charles Cretello est incapable d'un crime aussi horrible. Alors, dès l'ouverture du procès, il fait témoigner la directrice de la prison de Mulhouse pour lui faire raconter le comportement courageux de Charlie, venu en aide à un surveillant attaqué par un détenu.
Il y a quelques murmures de, à la fois de surprise, d'étonnement et de révolte, surtout de la part des enfants du couple assassiné.
Les avocats des enfants et balayent ce témoignage qui leur semble hors sujet.
Il l'a sûrement fait, tant mieux pour lui, mais ça ne changeait rien au fond du procès, ça ne changeait rien au fait qu'on était là parce qu'il avait tué deux personnes.
La vérité, c'est que le témoignage de la directrice de la prison est assez vite oublié. Effacé par celui de Laurence, la cousine de Christophe.
Elle a quelque part été un peu peut-être le porte-parole de Christophe en regardant Charles dans les yeux et en disant « Maintenant, ça suffit, il y a un moment, il faut que ça cesse et on va dire ce que tu étais réellement au quotidien. » Charles Cretello, qui se présentait comme le pater familias, le père de famille gentil et puis là pour tout le monde, on a vu qu'il y avait en fait un tyran derrière.
Ce qui a été absolument étonnant, c'est la haine extraordinaire qui entourait Charles Cretello. Si jamais ce ne sont pas des mensonges, je pense qu'il doit y avoir une exagération absolument terrible.
Ce témoignage porte un coup fatal à la défense de Charlie.
À Laurence, c'était complètement crédible et puis émouvante en plus. C'était la fin de la puissance de Charlie Cretello.
Maître Corman, l'avocat de Charlie, s'en prend alors aux experts, et notamment aux médecins légistes. Maître Corman soutient que les tirs sur Angela, Alain et le chien sont l'œuvre d'un seul et même tireur, Christophe.
Sur Monsieur Hay, Madame Hay, le chien, vous retrouvez la même saccade et la même série de trois balles. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que ce soit deux mains différentes qui aient pu tirer de façon exactement identique.
L'autopsie ne peut pas dire s'il y a eu un ou plusieurs tireurs. Ça, ce sont des conjectures. Aucun élément de l'autopsie ne permet de dire cela. Nous, on définit des points d'entrée, des trajectoires, points à la ligne. Et c'est que du scientifique.
Maître Corman conteste chaque point du rapport des légistes.
Sur les ricochets des balles au niveau de l'oreille de Madame Hay, sur le fait qu'elle ait chuté ou pas chuté dans l'escalier, il y a tout un... chaque ligne de notre rapport d'autopsie, de l'ensemble des analyses, est pour lui suspecte.
Vient le tour des experts psychologues et psychiatres. Là encore, Maître Corman passe à l'offensive. En prison, Christophe a eu des hallucinations. Pour l'avocat de Charles Cretello, c'est un signe de démence. Christophe est sujet à des accès de folie. C'est pour ça qu'il a tué Angela et Alain Hay.
Il n'y a pas de folie qui tienne. Il y a quand même toute la mécanique de la justice avant qui vient l'infirmer, cela. Si Christophe était fou, il serait à l'asile psychiatrique. Il ne serait pas dans un box d'accusés.
Christophe Cretello n'est pas fou. À la barre, la psychologue Lucienne Schneider le confirme. Mais alors pourquoi avoir tué Angela ?
Christophe, qui est jeune, qui a 25 ans, son père en a à ce moment-là 44, et je pense qu'il n'était pas encore quelqu'un de tout à fait construit psychologiquement, pas encore tout à fait structuré, qui ne pouvait peut-être pas se rebiffer devant ce père.
Pour les enfants d'Angela, l'explication est un peu courte. C'est quand même lui qui a tué leur mère. Ils en sont convaincus.
Au moment où il descend pour tuer Angela, son père se trouve à l'étage, donc il n'est pas en contact avec son père. Il arrive au rez-de-chaussée, où là, Angela peut très bien partir, puisqu'on est à l'entrée du restaurant. Donc, il y a une issue pour lui sauver la vie, pour qu'elle parte. Il a le choix à ce moment-là. Et il va jusqu'au bout de son acte, il la fait descendre dans la cave et il la bat de sang-froid dans la cave.
Deux meurtres, deux versions. Chacun campe sur ses positions et chacun s'accuse. Mais pour les journalistes présents à l'audience, il n'y a plus aucun doute.
Personne ne peut imaginer qu'un être aussi falot, inconsistant que Christophe puisse avoir manigancé tout cela, le meurtre, la dépossession des 500 000 francs. Toute cette instigation semble un tout petit peu trop élaborée pour un Christophe qui n'a jamais fait grand-chose que faire des pizzas dans la pizzeria de son père. Donc le père Charlie a beau accuser son fils, ça ne semble pas crédible.
C'est aussi l'avis de l'avocat général. Charles Cretello est bien l'instigateur du double crime. Il demande la perpétuité pour le père. Et pour le fils, 18 ans de réclusion. Il demande que tous les deux soient condamnés pour les deux meurtres, celui d'Angela et celui d'Alain. La défense de Christophe plaide coupable, mais pour le seul meurtre d'Angela, et rejette la préméditation. De son côté, Maître Corman demande l'acquittement pour Charles Cretello. La cour se retire et, après 4 heures de délibéré, le verdict tombe. Sur le rôle de chacun, elle ne tranche pas. Le fils prend 20 ans, le père perpétuité avec 22 ans de sûreté.
Charles Cretello, le père de Christophe, avait plaidé son innocence tout en chargeant son fils. Les jurés n'ont pas cru en la parole d'un homme qui avait varié plusieurs fois dans ses déclarations.
Au moment du verdict, Charles, il hoche la tête comme ça, voilà. Il fait ça. Bon, si vous êtes vraiment innocent, enfin je veux dire, vous bondissez d'indignation.
Pour moi, ça, Charlie s'attendait à ça aussi. Ça aurait été une surprise qu'il soit acquitté. Même pour lui, je pense.
Il a malheureusement mis ses pas dans les pas de son père. 20 ans de réclusion criminelle.
Christophe, bah, il a accueilli ça comme une mède à l'abattoir, hein, un peu. En 20 ans, c'est normal. 15 ans, pour moi, ça aurait pas été scandaleux non plus. Dire ça, c'est qu'un jouet entre les mains de son père.
Pour la famille et le verdict n'est que justice.
Mais ils ont pris donc 22 ans de sûreté et 20 ans pour le fils. Ça me satisfait quand même. Ça me soulage un petit peu.
Le verdict de la cour d'assises de Colmar, votre frère est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Quelle est votre réaction de sœur à ce moment-là ?
Ah ben, je suis effondrée. Il y a eu un acharnement. Tout ce qui était positif n'était pas relaté dans la presse. Parce que moi, tous les jours, j'allais à ce procès, tous les jours, j'assistais. Les articles ne relataient tout ce qui était positif pour mon frère. Rien n'était relaté, rien n'était retenu.
Que le négatif ?
Que le négatif. Ils l'ont noirci au possible et je ne pouvais pas accepter ça.
Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il vous dit quelque chose, je crois, après le verdict.
Ben, après le verdict, il m'a dit, Marie-Josée, je pouvais accepter 10 ans, 15 ans, parce que ce que j'ai fait, effectivement, j'aurais pas dû cacher ses corps, j'aurais pas dû... Mais perpétuité, non. Non, je te jure, je ne le méritais pas, ça.
Une fois le verdict rendu, Charles Cretello fait appel. Et l'avocat général, qui estime à juste titre qu'on ne peut pas rejuger l'un sans l'autre, fait appel lui aussi de la condamnation du fils. La justice se donne une deuxième chance de démêler cette affaire.
Le 11 avril 2004, quand s'ouvre le procès en appel à Reims, ce qui frappe, c'est la métamorphose de Christophe.
Christophe, il regarde en face les gens, ce qu'il n'avait pas fait lors du premier procès. Il s'exprime de façon plus claire, d'une voix plus forte.
Charles Cretello, lui, est toujours aussi à l'aise. C'est la dernière chance. Alors son avocat, Maître Corman, est encore plus incisif et il finit par marquer un point alors qu'il interroge un expert psychologue.
Il atténue la responsabilité de Charles Cretello et en disant que Charles Cretello a pu être celui qui a organisé, mais que certainement c'est le fils qui a commis les actes.
Mais le témoignage est vite oublié, balayé par les auditions des autres experts psychiatres qui, eux, renforcent la responsabilité du père.
Il y a une dimension d'initiation au crime qui a été esquissée par les psychiatres. On a tué ensemble, on est lié par le sang des autres. On est lié par le sang des haies. Sauf que bon, Christophe, il n'avait pas la dimension pour devenir un gangster. Il n'avait pas la dimension pour devenir peut-être le malfrat que son père aurait voulu qu'il soit.
Christophe, lui, se réveille et relève la tête. Il affronte le regard de son père et ose même le contrer au dernier jour du procès.
Immédiatement après les protestations d'innocence de son père, il se lève et il dit « C'est pas possible, tu peux pas dire ça. Ça s'est pas passé comme ça. Tu me l'as bien mis, cette arme dans la main, et tu m'as dit de tuer madame. » Et donc, on a un Christophe qui devient réactif et qui n'attend pas qu'on l'invite à participer à son procès. Il est dans le procès et il est face à son père. Enfin.
Le verdict tombe tard dans la nuit. Pour Charles Cretello, c'est la perpétuité. Avec 21 ans de sûreté, un an de moins qu'à Colmar. Christophe, lui, a gagné sur un point. Il est acquitté du meurtre d'Alain Hay. Pourtant, sa peine reste inchangée. 20 ans de réclusion criminelle.
Il y a, pour nous, une petite déception qu'il n'y ait pas eu une minoration de la sanction pénale suite à cet acquittement. Mais pour Christophe, il y a deux victoires dans ce verdict. C'est son acquittement partiel et l'opposition au père.
Céline Hay, il y a eu deux procès,
oui,
successifs. À chaque fois, Charles Cretello a été condamné à la peine maximale, oui, la réclusion criminelle à perpétuité. Est-ce que ces procès ont répondu à vos interrogations ?
Non. Pas savoir vraiment le pourquoi. Le pourquoi, ils auraient pu très bien le voler. Voler, voilà. On les enferme dans une pièce, point. Puis on s'en va avec l'argent. Ils avaient de quoi faire. Mais non, ils ont été plus loin.
Et qui ? Qui a vraiment tiré ?
Oui.
Vous avez la réponse ? Est-ce que la réponse de la justice vous satisfait ?
Parce que ce sont eux qui l'ont fait, donc ils ont été jugés et puis condamnés. Mais vraiment, le fin mot, non, il nous manque quelque chose. Vouloir savoir vraiment par quel stratagème, on va dire.
Ils les ont attirés là-dedans ?
Oui. Ce qui nous manque, c'est comment qu'il a pu gagner la confiance de mon père et d'Angela.
Évidemment, après sa condamnation en appel, Charles Cretello se pourvoit en cassation. Cassation rejetée. Le père et le fils sont toujours en prison. Le père au moins jusqu'en 2019 minimum. Le fils pourra bientôt demander une libération conditionnelle. Mm-hmm.